les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines pour parler des villes de demain qui abriteront, je vous le rappelle, ces villes, la majorité de la population mondiale. En 2050, les villes, on aura 6 milliards de personnes, donc 70% de la population mondiale. Alors nous allons nous interroger avec des architectes justement, comment protéger les habitants des inondations, des ouragans, évidemment je pense à l'actualité, du chaud, du froid tout simplement, comment construire des villes conviviales, respecter les objectifs liés à la lutte contre le réchauffement climatique. Toutes ces questions ont-elles changé le métier des architectes? Quelles solutions aussi pour les villes du Sud qui sont à l'heure actuelle dessinées davantage par la croissance urbaine que par des plans d'aménagement? On va en discuter avec Jean-Robert Mazot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte urbaniste. Votre agence s'appelle S International.
Tout à fait.
Et vous publiez un ouvrage tout à fait singulier sur les trams du ciel, un atlas mondial des téléphériques et autres transports urbains à câbles, funiculaires, ascenseurs, mini-métro. On a 20 000 appareils, c'est ça, à l'heure actuelle dans
le monde, 20 000.
C'est ça.
Et mais très peu en ville, finalement.
C'est ça, 10% seulement dans les villes. Est-ce que c'est l'avenir du transport urbain pour vous, les métros câblés, les téléphériques?
L'avenir du transport urbain, c'est la créativité. C'est d'inventer des nouveaux systèmes, c'est de permettre aux gens de s'exprimer et c'est de leur proposer surtout des modes de déplacement qui soient complémentaires de leur mode de vie, ou l'inverse.
Et alors, évidemment, efficace et avec des énergies propres. Alors, vous nous direz surtout à quelle ville aujourd'hui vous pensez en particulier, quelles sont les villes les plus prometteuses. Également dans le studio Ning Liu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte, vous êtes né en Chine.
Je suis chinoise.
Ouais. Et votre agence Building for Climate, parce que vous travaillez en France,
c'est
à Paris.
Ça, avec mes collègues français.
Et vous avez travaillé sur les villes chinoises et africaines. On sera également en ligne avec une architecte, une jeune architecte ivoirienne, Mélissa Cacoutier, sur un continent où les écoles d'architecture n'existent quasiment pas et où les femmes sont d'ailleurs rares aussi à exercer ce métier. Quant à vous, les voisins, quel regard portez-vous sur votre ville? Qu'est-ce qu'une belle ville aussi, selon vous? Je sais que la question, parfois, peut sembler incongrue à nos auditeurs en Afrique, car il y a tant d'autres priorités que l'esthétisme. Vous avez la parole dès maintenant. Notre standard est ouvert au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Il y a le message de Lucien qui était posté de Ouagadougou. On a plusieurs auditeurs voisins burkinabés d'ailleurs qui s'expriment sur leur ville. Il nous dit « Il faut que la population arrive d'abord à savoir ce qu'elle veut avant de parler de construction ». Julien, lui, est à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, au Burkina. L'extension des villes, nous dit Julien, se fait sans tenir compte des infrastructures. Les populations ne peuvent pas se déplacer correctement dans une ville qui s'agrandit. Et en plus, les nouveaux quartiers manquent de commissariats, d'accès à l'eau, d'électricité, d'infirmerie. Et le problème des poubelles est une priorité. Il faut rendre le cadre propre et vivable ensemble. Djibril, également à Bobo-Dioulasso, nous dit que la corruption autour de l'attribution des parcelles amène les plus démunis à construire des cabanes de fortune qui grossissent les bidonvilles. Chaque année, poursuit Djibril, pendant la saison des pluies, il y a de nombreux éboulements dans ces zones. Moi, je veux une ville sûre, nous dit Djibril, où la population se sent en sécurité. Les autorités communales doivent mettre en place une commission indépendante chargée d'attribuer les lots et de superviser la mise en valeur des parcelles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, les architectes, parfois vous vous sentez un peu les otages de la gestion politique des villes ou pas, non?
Les otages, parfois, oui.
Vous n'êtes pas responsable des éboulements.
Non, mais on peut faire des propositions. On peut faire des propositions, on peut intervenir.
Écoutez, parfois ou pas toujours.
On a quand même beaucoup de chance, c'est qu'on est quand même acteurs dans le groupe d'acteurs qui font la ville. Nous ne sommes certainement pas le décideur, mais nous avons l'occasion de les conseiller. Donc je pense que de là, on tient quand même une grande responsabilité dans le développement des villes.
Même si vous êtes souvent discret tout de même dans les médias, hein. Moussa est à Dakar, il nous dit que les villes africaines sont mal construites, il y a tout à refaire. À Dakar, les habitants veulent moderniser certains quartiers, les urbaniser, malheureusement, La mairie n'a aucun moyen de financer ce genre de projet et l'État encore moins. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tue le temps. Après 22h tu croises plus de gens, comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent, quelques mecs de la fac en troisième mi-temps. Qui devraient pas trop s'approcher du bord, quand ils vont se terminer sur le port. Dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville, là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le caddie des parents ralenti devant Pizza dell'Arte, pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers, près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier, où tu peux voir les grandes tours des quartiers, où l'architecte a cru faire un truc bien. Si je rappais pas j'y serais jamais allé, parce qu'on se mélange pas tant que ça là d'où je viens. Après y'a des champs, y'a plus rien. Si tu vois de la fumée quand tu reviens, c'est que dans les usines pas très loin, on se cale sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine. À côté des pavillons rectilignes, où on pense à ce que pense la voisine, où on passe les dimanches en famille, où on fabrique du blanc fragile. Longe le canal, prends le périph', t'arrives à la salle où j'ai raté des lay-ups décisifs. Pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent, au milieu des grues, là où y'a les bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes. Où les Parisiens nous trouvaient tellement nuls, où tu vois l'Angleterre derrière la brume. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout, pour nous rappeler qu'on y passera tous et tu seras de retour en ville. Où les bourges font les courses et les punks mendient, où y'a des clochards dans tout le monde connaît les noms. J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coup de tesson devant l'épicerie Zec est toujours ouverte, près du château c'est doux et c'est légende urbaine. J'ai fait des mariages, des enterrements, dans les mosquées, les églises et les temples, sous un crash un normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.
Daniel nous appelle de Kinshasa pour parler de sa ville, puisqu'on donne la parole à des auditeurs pour dialoguer avec des architectes. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
On est ravis de récupérer nos auditeurs de Kinshasa, parce que vous nous avez beaucoup manqué pendant plusieurs mois, la FM était coupée. Daniel, nous vous écoutons, vous souhaitez nous parler de l'exode inexorable des habitants vers Kinshasa.
Ok, merci beaucoup Emmanuel. Concernant la problématique du jour, j'aimerais un peu marteler sur l'exode rural vers la ville de Kinshasa. Vu que la plupart des villes ici en République démocratique du Congo n'est pas tout à fait viable et certains jeunes, surtout les jeunes, certains jeunes préfèrent quitter leur province, donc dans des villes à l'intérieur du pays, pour vivre ici à Kinshasa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville est tellement saturée. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui des constructions anarchiques qui ne respectent pas des normes urbanistiques. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des inondations par-ci, par-là. Et c'est un peu un problème que nous déplorons ici. Et déjà, j'allais aussi parler de la mauvaise gestion de nos villes ici. Et là, je vais marteler sur deux points. Il y a le manque d'assainissement de la ville. Ici, si vous parcourez la ville de Kinshasa, moi j'ai fait le journalisme, si vous parcourez la ville de Kinshasa, vous verrez qu'aujourd'hui la ville est très très sale. Et plus particulièrement ma commune, là où je suis, dans la commune de Selembao, dans le marché, en plein marché aujourd'hui, nous avons des saletés par-ci par-là. C'est comme ça, sans se gêner. Et cela se fait au vu et aussi des autorités. C'est un peu un problème que nous déplorons ici. Et moi, je vais donner quelques pistes de solutions concernant l'exode rural. S'il y a moyen que les autorités, surtout dans différentes villes, que les autorités puissent un peu voir comment rendre viable leur ville, s'il y a moyen. Comme ça, les jeunes pourront se ressaisir et rester là où ils sont, sans pourtant envier venir jusqu'à Kinshasa. Surtout nos deux provinces qui partagent la frontière avec la ville de Kinshasa. Nous avons la province du Bandundu et la province du Bas-Congo. C'est presque chaque jour que les gens traversent leur province pour venir vivre ici dans la ville de Kinshasa. En tout cas, la ville est tellement saturée. Oui. Et la deuxième proposition que je vais faire, c'est concernant la mauvaise gestion de nos villes. Quelles sont les solutions ou le remède pour pallier à ces problèmes? Tout d'abord, il y a la sensibilisation. Nos autorités doivent prendre soin de sensibiliser la population, donc la population en général, quoi. Le manque d'information, la population n'est pas informée, il est en train de jeter des ordures par-ci, par-là, même dans des caniveaux, ce qui cause aussi des inondations aujourd'hui dans notre ville de Kinshasa. Et deuxièmement, s'il y a moyen, que l'autorité, principalement l'autorité de la ville de Kinshasa, puisse créer une brigade d'assainissement dans chaque ville. Comme ça, nous aurons quand même cette facilité-là. Ces personnes qui seront affectées dans ces différentes brigades pourront assurer l'assainissement de la ville tout en passant dans différents quartiers. En tout cas, surveiller vraiment l'assainissement et, en cas de quoi, poser des amendes à ceux qui vont s'égarer de la loi. Et pour finir, que les autorités puissent assurer régulièrement la traînée de nos routes, voies routières. Les autorités doivent prendre soin de maîtres et de personnes qui seront là pour surveiller la traînée en cas de nid de poules, que les autorités puissent prendre soin de ça. Dès le début, lorsque une route commence à se dégrader, que les autorités puissent sauter
parce que
directement.
Ça coûte beaucoup plus cher si on attend de refaire entièrement une route plutôt que de l'entretenir. Oui, on est bien d'accord. Mais Daniel, c'est tout un programme politique finalement que vous nous proposez là pour la ville de Kinshasa, qui est une ville largement surpeuplée. D'ailleurs, personne n'est vraiment d'accord sur le nombre de millions d'habitants. Il n'y a pas eu de recensement depuis Mobutu, je crois. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé. On donne la parole à Mohamed qui est à Antananarivo à Madagascar. Bonjour Mohamed.
Bonjour Emmanuel.
Alors, pour la situation à Tana.
La situation à Tana, c'est très grave parce que il y a le problème d'urbanisation. Il n'y a pas une plan d'urbanisation, surtout dans les périphéries de la ville d'Antananarivo. Surtout les canalisations de l'eau, ça se trouve simplement au cœur de la capitale d'Antananarivo. Alors, les zones qui entourent le cœur de la capitale ont des problèmes sur les canalisations. Une fois qu'il y a une période de pluie, toutes les maisons, parfois il y a des maisons qui s'écroulent.
Mohamed, vous êtes vous-même comorien, je crois que vous êtes venu à Antananarivo pour vos études.
D'accord, oui.
Vous avez le sentiment que la ville de Tana est dans une situation bien différente par rapport à Moroni ?
Pas totalement différent. Parce que le fait que la construction de la ville d'Antananarivo, c'est tout à fait différent que la construction de la ville de Moroni. Surtout, les matières utilisées dans les constructions en ville d'Antananarivo sont surtout des matières qui ne sont pas très sécurisées, surtout les briques, les maisons. Ce sont les maisons administratives qui bénéficient d'une architecture assez vraiment sécurisée.
Oui, l'argile qui est peu solide en cas de d'éboulement. Hein.
Oui, surtout il y a des zones à risque. Ces zones-là, au lieu de ne pas être construites, on trouve aujourd'hui des quartiers tout entiers. Et une fois qu'il y a des inondations, c'est tout un quartier tout entier qui est en danger.
Vous souhaitez intervenir, Ning Liu?
Oui, Mohamed. Je suis Ning, je suis une jeune architecte urbaniste. J'ai rendu pas mal de visites en Afrique venant de Chine. Donc, j'ai vu que vous avez tout à fait bien souligné sur deux questions essentielles. Une question, c'est sur la gestion urbaine, parce que vous êtes face à un défi tellement énorme d'urbanisation dans toute l'Afrique que la pression démographique dans les grandes villes est tellement forte qu'on a l'impression que la gestion urbaine, l'infrastructure urbaine ne suit pas.
C'est ça, on n'est pas dans le même espace-temps. En fait, la croissance démographique est beaucoup trop rapide par rapport
c'est
à
ça,
la gestion
parce que
urbaine.
Je crois, j'ai lu un rapport il n'y a pas longtemps qui prévoit plus d'habitants en ville qu'à la campagne en Afrique et il y aura 1 milliard d'habitants urbains en Afrique d'ici 20 ans, même avant ça. Et le deuxième sujet, ce que vous soulignez, c'est les matières utilisées pour faire la ville. Là, je pense que ma sensibilité d'architecte me parle. J'ai visité pas mal de maisons traditionnelles construites en terre crue avec des matières naturelles. Vous dites aussi qu'avec le changement climatique, ces maisons sont plus fragiles. Elles fondent quand il y a l'inondation. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a une grosse inondation à Ouagadougou. Beaucoup de villages ont fondu littéralement après ces inondations. Donc, on se pose la question. En effet, sur la validité de ces matières utilisées dans la ville moderne. Mais je pense que là, il y a beaucoup d'inventions à faire. Ce n'est pas parce que l'argile est un matériau mauvais, c'est parce que l'architecture est mal conçue. C'est-à-dire, historiquement, l'argile est construite dans les murs utilisés pour les maisons, mais il y a toujours un soubassement solide en pierre. Si vous ne faites pas ça, ben, la maison va fondre. Donc, je crois qu'il y a aussi une intelligence à utiliser pour marier les matériaux solides de nouvelles technologies qui permettent une certaine pérennité et d'aussi utiliser les matériaux recyclables qui nous permettent d'avoir une ville plus durable. Voilà.
Jean-Robert Mazot.
Oui, je voulais dire aussi qu'il existait des solutions et que ces solutions, on les met en œuvre aujourd'hui. J'en ai pour preuve une étude que nous venons de terminer à Cotonou, au Bénin, où toute la ville entière est inondable. Donc le problème se pose partout. Et c'est la vraie question, c'est la bonne question. Il faut commencer par régler les problèmes de l'eau parce que c'est une question de santé. Il faut régler les problèmes de l'énergie parce que c'est une question d'économie. Il faut régler les problèmes de convivialité et de vivre ensemble parce que c'est un problème de paix et d'apaisement. Et donc ce rapport que nous avons fait, qui a duré 2 ans, nous a incité à réunir tous les responsables locaux. Et donc nous avons mis en place des choses très simples au départ, des règlements de construction qui parlent des matériaux, qui parlent des hauteurs, mais qui parlent aussi de techniques simples pour les évacuations d'eau. C'est pas forcément des tuyaux enterrés, ça peut se faire avec des techniques beaucoup plus douces, beaucoup moins chères, beaucoup mieux adaptées.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui on a une approche plus frugale, hein, moins coûteuse pour les villes du Sud, mais efficace, avec de vraies solutions qui sont en train de se mettre à jour, alors que les habitants, finalement, ont quand même l'impression, pour l'instant, en tout cas, attendent les solutions qu'ils voient dans les villes du Nord, c'est-à-dire le béton, le ciment.
Oui, mais par exemple, si l'on prend les télécommunications aujourd'hui avec le portable, on n'a plus besoin de mettre des câbles en place. Quand on voit ce que l'on est capable de faire en énergie renouvelable, on s'aperçoit qu'il n'y a plus besoin de pylônes, il n'y a plus besoin d'enterrer des lignes. Donc, en fait, la frugalité, elle est aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer d'imposer une frugalité, on est en train d'apprendre nous-mêmes la frugalité.
Au nord comme au sud, donc, finalement.
Au nord comme au sud, et on est en train de chercher des alliés, en quelque sorte, des partenaires. On est en train de vouloir faire des coproductions, et non plus d'imposer tel ou tel système. Et parfois, nous revenons de nos voyages avec des idées nouvelles fantastiques, en particulier sur un thème qui nous intéresse dans le monde entier, qui est la résilience. Comment organiser la résilience? Comment faire en sorte que dans les villes, eh bien, il y ait une solidarité? Comment faire en sorte que le confort soit pour tout le monde et pas simplement pour des privilégiés.
Est-ce que vous pensez qu'on est en train, dans les villes riches comme dans les villes pauvres, de basculer dans un modèle de ville totalement différent? On voit circuler sur Internet alors des projets absolument incroyables, de tours vertes. Bon, on ne sait pas d'ailleurs quelle en sera la réalité dans quelques années.
Ce qui est sûr, c'est qu'on doit absolument évoluer vers d'autres modèles. Je pense que beaucoup d'études ont prouvé que notre mode de vie, et surtout le mode de vie dans le Nord, n'est pas durable pour la survie de la planète. Et après, il y a un problème aussi dans le développement des villes modernes depuis les années 30, c'est qu'on croit trop, beaucoup trop, aux technologies. Aujourd'hui, quand on parle de villes intelligentes, smart cities, c'est d'abord de rendre les villes connectées. Je crois qu'il ne suffit pas de construire simplement des immeubles beaux pour attirer les entreprises et créer de la richesse, c'est hautement insuffisant. C'est pour ça que nous avons fait cette agence en France qui s'appelle Bâtir pour le climat. Pour nous, le climat, c'est pas simplement des données météorologiques. C'est parce que nous sommes habitants de la planète que nous avons des climats différents, qu'il y a différentes manières de vivre. C'est en les respectant qu'on peut arriver à avoir une vie durable. Vous avez souligné tout à l'heure que la ville durable, c'est un grand mot. En fait, dans beaucoup de villes africaines, c'est d'avoir une ville d'abord vivable, et après, je dirais, c'est d'avoir une ville intéressante pour les habitants. Donc, nous, les architectes, je crois que c'est une grande leçon pour nous. Au lieu de dessiner, il faut qu'on observe, il faut qu'on écoute, il faut qu'on prenne en compte les demandes des habitants comme les auditeurs d'aujourd'hui.
Jean-Robert Mazot, vous avez tout de même commencé votre carrière il y a déjà un certain nombre d'années où l'architecte, c'était une personne qui devait embellir la ville. Il y avait vraiment une notion esthétique extrêmement... L'innovation était couplée avec l'esthétisme, une recherche d'esthétisme.
Oui et non, parce que le premier groupe que l'on avait formé...
Les architectes n'ont pas fait que des belles choses, mais...
Avec plusieurs étudiants, nous avions formé un groupe en 1976 qui s'appelait Climat. Et donc, c'est pas tout nouveau. Pourquoi Climat en 1976?
C'était parce que déjà, à Vancouver, de Habitat.
Voilà, nous étions à Vancouver. C'était la première fois qu'on parlait
de...
Choc pétrolier, les établissements humains, tout d'un coup, on s'apercevait que les villes allaient enfler, gonfler, qu'elles allaient attirer toutes les populations. Et on s'apercevait déjà à l'époque qu'on allait dans le mur. On y est dans le mur maintenant.
Donc, il y avait des pionniers à l'époque, déjà. Dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, il y avait déjà des pionniers qui se sont posés cette question.
Absolument. Les nouveaux alchimistes qui étaient installés sur l'île du Prince-Édouard, ils ont été rachetés par Veolia il y a quelques années seulement, c'est-à-dire après 30 ans d'exploration et d'amélioration des connaissances. Donc aujourd'hui, on est dans le mur. Donc on est dans le mur au niveau de l'énergie, on est dans le mur au niveau de la surpopulation, on est tout à fait apte à régler ces problèmes, mais encore faut-il le vouloir, et le vouloir d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de l'énergie comme on l'a fait avec cette massification des moyens de production, on ne peut plus parler des déplacements comme on l'a fait avec simplement des autoroutes et des métros souterrains, on ne peut plus parler de la nourriture avec simplement des grandes industries agroalimentaires, mais aussi avec une agriculture de proximité. Pratiquement tous les sujets sont à revoir.
Ouais. Comment se protéger des inondations, des ouragans, du chaud, du froid, comment se déplacer, comment respirer un air propre, tout simplement. On en discute avec une architecte chinoise qui a travaillé sur les villes africaines, Ning Liu, votre agence Building for Climate, Jean-Robert Mazot, architecte urbaniste pour l'agence S International, et puis auteur de ce livre tout à fait passionnant, Les Trames du Ciel. On va en parler quand on va aborder la question des transports. Je remercie aussi nos auditeurs que je n'ai jamais le temps de suffisamment remercier. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission en direct, les voisins. Mohamed nous a appelé de Kinshasa et Daniel d'Antananarivo. Et d'ailleurs, je soumets ça à votre réflexion en studio, mais on sent bien que les voisins, en général, quelle que soit la ville d'où ils appellent, il y a une conscience urbaine qui commence à s'amorcer, y compris dans les villes que l'on imagine et qui sont désorganisées.
Tout à fait. Et je crois que c'est ça la chance qu'on a pour le cercle à venir. Moi qui viens de Chine, où avec l'urbanisation, la pollution de l'air est devenue un grand sujet pour tout le monde, parce qu'on vit au quotidien avec ces poussières. Et je crois que la conscience citoyenne en Chine est réveillée par des problèmes environnementaux, tout comme vous en Afrique. Donc je crois qu'on a vraiment des choses à échanger, à apprendre ensemble, des leçons à retirer ensemble.
Ouais, reste à savoir ensuite si les habitants sont suffisamment écoutés, à la fois par les urbanistes, les architectes et les politiques.
Eh bien, une fois que les habitants ont pris la parole, c'est difficile de leur retirer la parole et de ne pas en tenir compte. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de les inviter à s'exprimer, d'apporter leur propre vision de leur cadre de vie. C'est ce qu'on appelle, et puis d'agir, c'est ce que j'appelle l'énergie citoyenne. L'énergie citoyenne, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, que ce soit au niveau du traitement des déchets, que ce soit au niveau de l'agriculture urbaine, il n'y a que l'énergie citoyenne qui peut faire quelque chose. Ça ne peut pas arriver d'ailleurs. Donc les citoyens, les habitants des villes sont en train de prendre le pouvoir en réalité.
Ce sont bien les hommes qui font la ville et pas l'inverse.
J'ai deux petites histoires en deux minutes pour nos amis Mohamed et Daniel qui ont appelé. Je crois que ce sont des actions concrètes qui peuvent amener des solutions, autant dans nos villes en Chine qu'en Afrique. Récemment, on a travaillé sur une écocité à côté de Wuhan, en Chine, qui est dans un champ de lotus. Donc l'autorité voulait urbaniser très vite ce territoire, et on s'est rendu compte qu'il y a une vraie richesse de vivre à la campagne de ce pays de 1000 lacs à préserver. Donc nous avons été sélectionnés parmi 39 équipes à réfléchir. On était 4 équipes au final pour réfléchir sur l'avenir de ce territoire. Donc on a proposé de préserver plus de la moitié du territoire avec cette vie de l'eau, de préserver de l'eau et donc de nous défendre de l'inondation qui est récurrente maintenant dans beaucoup de villes surpeuplées en Chine. Et en respectant cet art de vivre, je crois qu'on peut aussi avoir une ville plus durable. Ouais. Deuxième petite histoire, c'est à Ouagadougou. Nous avons fait avec une fondation qui s'occupe des enfants handicapés, qui s'appelle Fitima, nous avons inventé un nouveau modèle d'école qui utilise l'argile, mais qui utilise aussi la pierre comme fondation. Cette école est construite à Ouagadougou, dans le quartier de Ouagadougou. Ils utilisent 80% des matériaux sont issus locaux, c'est-à-dire on évite d'utiliser les matériaux importés, donc qui sont chers.
Ça veut dire que finalement c'est moins coûteux que d'acheter des sacs de ciment et des parpaings.
Oui, c'est ça. Et avec la pierre, l'argile, vous arrivez à avoir une meilleure isolation thermique, donc d'avoir plus de frais à l'intérieur, sans utiliser la clim. Donc nous en sommes très fiers. Les gens nous disent qu'il fait vraiment frais dans ce bâtiment. Il est en plus joli. Donc les enfants qui sont en fauteuil, ils sont très fiers de leur école et ils font venir même leurs frères et leurs sœurs. Ouais. Et je crois que ça, tout le monde peut le faire. Si une petite agence d'architectes peut le proposer avec une fondation locale, vous, chacun de vous, peut aussi faire des initiatives.
Et on salue au passage la présidente de FITIMA, parce qu'on l'a reçue plusieurs fois dans cette émission. Elle fait un travail remarquable pour la scolarisation des enfants handicapés dans plusieurs villes africaines. Alors vous nous appelez, puisque vous nous le disiez tous les deux, Jean-Robert Mazot et Ning Liu, ce sont les habitants d'abord qui doivent faire la ville. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle, qui est Rodrigue, qui nous appelle de Garoua, dans le nord du Cameroun. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons. Oui. Vous souhaitez nous parler de votre ville qui est la troisième ville du pays au Cameroun.
Oui, je souhaitais vous faire remarquer que ceux qui viennent engorger les villes ne le font généralement pas de gaieté de cœur. Le plus souvent, c'est parce que seules les villes offrent des commodités essentielles au bien-être des individus. Si les zones périurbaines et même rurales étaient équipées en hôpitaux, en écoles, en universités, et si on pouvait y avoir de l'eau courante, de l'électricité, du travail, je parie que cela continuerait à désengorger les villes. C'est pourquoi ici au Cameroun, par exemple, Douala, Yaoundé, dans une certaine mesure, Bafoussam, sont surpeuplés,
oui,
alors que l'intérieur du pays est pratiquement vide.
Manque d'infrastructures, mais manque aussi de débouchés professionnels pour trouver du travail. Vous, vous êtes resté à Garoua. Comment vous percevez ces mouvements de population ?
Moi, je suis à Garoua parce que j'y travaille. Donc, Garoua, c'est quand même une des principales villes du pays. Donc, j'ai été envoyé en tant que professeur de lycée. Et j'y suis. Bon, mais
Vous avez été envoyé là, malgré vous. Vous souhaitiez rester à Yaoundé ou à Douala ?
Honnêtement, non.
Ah, bah écoutez, c'est rare d'entendre un professeur muté dans une ville secondaire et qui est content.
Non, Yaoundé, Douala, vraiment, non, merci.
Vous posez bien la question, et merci d'avoir appelé Rodrigue, la question des villes secondaires, qui est une question qui ne se pose pas seulement d'ailleurs en Afrique, mais c'est vrai que les capitales grossissent. Je ne sais pas quelle est votre lecture, Jean-Robert Mazot, sur ces fameuses villes secondaires africaines.
Les villes secondaires on manque de moyens et manque d'intérêt. Donc il faut redonner de l'intérêt, et il y a effectivement, il faut faire sans doute plus, mieux et différent. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de plus-value. Il faut créer de la plus-value dans les villes secondaires pour que l'économie arrive à s'accrocher à la ville. Il faut produire de façon meilleure, donc c'est là le mieux. Et puis différent, il faut se poser des questions nouvelles avec les nouvelles technologies. On peut quand même faire de la e-santé, on peut faire de la santé.
Vous pensez que justement, ces villes étant moins peuplées, il y aurait davantage de possibilités pour les architectes, pour les habitants, pour les urbanistes, d'être plus innovants? Parce que c'est vrai que quand on arrive sur un terrain qui est saturé, où tout est tellement enchevêtré, j'imagine que les architectes que vous êtes dans les grandes capitales surpeuplées se disent « Mon Dieu, par où on commence ?»
Vous savez, une ville, c'est d'abord une mutuelle. Pourquoi vient-on en ville ? Ça a été dit par votre auditeur, on vient en ville pour plus de santé, on vient en ville pour de l'eau courante, on vient en ville pour l'énergie, pour l'électricité, pour l'éducation, pour le travail, pour les loisirs, pour la culture. Donc tout cela, ça existe dans les villes moyennes. On peut effectivement le mettre en place, on peut le favoriser, et le fait d'aménager, c'est pas simplement valoriser un terrain. Aménager, c'est mettre les gens ensemble et leur permettre de mutualiser leurs moyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bus, le bus, c'est une mutuelle. Quand vous avez une école, c'est une mutuelle. Quand vous avez un cinéma ou un théâtre, c'est encore une mutuelle.
Par rapport à cette question de mise en commun, je voudrais souligner un sujet très important, qui est aussi essentiel en Chine qu'en Afrique, c'est le sujet de l'éducation. Vous savez pourquoi autant de gens viennent travailler dans les villes importantes? Parce qu'il y a une meilleure éducation pour leurs enfants. Et j'ai fait une thèse, il n'y a pas longtemps, comparant les écoles chinoises et africaines dans les villes contemporaine, et on voit que le cadre d'apprentissage est très important pour les enfants. C'est là où je pense, pour que les villes secondaires, entre guillemets, deviennent plus intéressantes, il faut s'adresser à l'offre éducative,
avec
à l'offre de la santé.
Moins surpeuplées, comme c'est dans ça. Les capitales.
Et aussi de s'intéresser à la culture locale, parce qu'on nous dit les villes se ressemblent de plus en plus, c'est parce qu'elles ont perdu leur âme. Donc, pour qu'une ville, entre guillemets, secondaire devienne un nom quelque chose qui a une identité, il faut revenir à ces sujets essentiels de culture, aussi de climat, de vivre avec le climat, de promouvoir l'éducation et de donner un cadre de vie intéressant.
C'est ce que vous avez fait pour un projet en Afrique du Sud.
C'est ça. On a récemment, en fait, on a fait une étude urbaine au Cap, de voir qu'est-ce qui manque dans la banlieue du Cap après 20 ans après la fin de l'apartheid, pourquoi ils s'en sortent pas. Et on s'est aperçu que les écoles ont été commandées dans ces endroits-là sans le surplus d'espace pour aller au-delà du programme basique scolaire. Il n'y a pas d'espace pour la culture, il n'y a pas d'espace pour la musique, il n'y a pas de moyens pour le sport. Les filles n'ont aucun endroit où aller après les classes. Donc, récemment, on a construit un programme très petit, mais qui est intéressant à mon avis à répliquer dans d'autres endroits des villes. C'est-à-dire, on a proposé un programme qui est en fait un espace musical, qui est un pavillon de musique, totalement construit avec du bois recyclé sur place. Et on a construit ce pavillon pour que l'orchestre de l'école puisse y jouer et pour donner des concerts, pour que l'école devienne aussi un repère culturel dans le voisinage. Et ce bâtiment, il va être inauguré lundi. Au Cap, et on espère pouvoir faire d'autres projets comme ça en Afrique.
C'est à ça que vous servez aussi les architectes, pas seulement à survivre pour les habitants, mais à donner des repères culturels.
Vous savez, un architecte, un urbaniste, nous travaillons à la fois sur des villes de 5 millions d'habitants, en Chine, Doumen par exemple, et nous travaillons sur des petites constructions, des petits logements, des petites cabanes même. Donc on n'a pas de limite, et c'est ce qui fait le sens de notre métier, c'est d'arriver à créer un mode de vie, à créer une vie, alors qu'on peut parler de ville, on peut parler de ville moyenne, de grande ville, on peut même parler de la campagne.
Alors je voudrais qu'on dise quand même un mot de votre livre, Jean-Robert Mazeaud, qui est tout à fait singulier et intéressant. Vous publiez Trame du ciel, Atlas mondial des téléphériques et autres transports urbains à câble. Alors pour nos auditeurs, autant dire que vous avez recensé je ne sais pas combien de villes, de pays, très nombreux.
Il y a 131 villes dans le livre.
C'est ça. Très peu sur le continent africain, à part en Algérie et en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Mais quand on lit ce livre, on se dit, mais bon sang, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? En même temps, c'est pas nouveau le fait de transporter des humains via des câbles.
Bien sûr que c'est pas nouveau, puisque ça remonte à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Mais je suis pas d'accord sur l'Afrique, parce que l'Algérie est un pays où il y a eu des transports, des téléphériques, pratiquement dans toutes les villes, très tôt, bien avant les pays d'Europe. Donc finalement, on dit toujours tel continent est en retard, mais c'est inexact, parce qu'en réalité, si on regarde historiquement, on s'aperçoit que les bonnes idées, elles germent partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des problèmes à régler. Par exemple, après le tremblement de terre à Katmandou, eh ben, le seul moyen qu'on pourrait mettre en place de façon économique pour tout le monde, ce serait un téléphérique. Même chose à Haïti. Haïti, après le tremblement de terre, on ne peut pas mettre de métro, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas mettre de bus, il n'y a pas de rue. On ne peut rien faire, en fait. Donc, il faut passer par le haut. Et passer par le haut, finalement, quand on y réfléchit bien, c'est passer par plus d'intelligence, c'est passer par plus d'envie, par plus d'audace. Et finalement, on réconcilie plus de gens ensemble, c'est-à-dire qu'on réconcilie les quartiers les uns avec les autres, on réconcilie les gens à mobilité réduite avec les gens qui...
À quelle ville vous pensez, là? Quel est le téléphérique qui vous a le plus interloqué?
Ah ben, c'est tous les téléphériques d'Amérique du Sud qui ont provoqué des révolutions dans des quartiers qui étaient infréquentables.
En
Colombie, même au Venezuela, enfin, partout, en Équateur, partout où on a pu mettre ce système en place de façon économique, on a bousculé les codes des
favelas. Parce qu'il y a un problème de relief en Amérique du Sud, c'est-à-dire que les quartiers pauvres sont en haut.
Les quartiers pauvres sont en haut, sont inaccessibles, c'est-à-dire qu'on ne descend pas pour travailler parce que tout simplement on ne peut pas descendre. Donc il y a un véritable problème de ségrégation qui tout d'un coup, une idée aussi vieille que celle-là, parce que cette idée-là, elle est de la nuit, elle remonte à la nuit des temps. Eh bien, une idée aussi simple que celle-là, parce que cette idée-là, elle est simple. Une idée aussi économique que celle-là, parce que cette idée est économique. Et une idée aussi propre, parce que cette idée-là, elle ne produit aucun gaz à effet de serre.
Comment se fait-il qu'on n'ait pas ça dans des villes africaines, où on en est encore à courir après de l'argent pour mettre en place des métros? C'est parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de volume aussi avec des transports de téléphériques par câble?
Non, il y a un tas de villes qui sont tout à fait adaptées. Je pense à...
On va transporter des millions de gens quand même.
Oui, mais je pense à Dakar qui est complètement congestionné, on ne peut plus aller d'un point à un autre. Je pense à Abidjan, je pense à un tas de villes en Afrique qui, je pense au Caire.
Abidjan, en l'occurrence, là, on est plutôt en train de dépenser beaucoup pour un métro.
Oui, mais...
De même qu'à Addis Abeba.
Oui, alors c'est une question qu'on peut se poser. Alors peut-être qu'on se la pose trop tard. Alors autant se poser les questions futures de façon à ce qu'on ne prenne pas encore plus de retard. Il n'y a pas que le transport, bien évidemment. Mais enfin, quand on parle d'énergie, il faut la transporter. Quand on parle d'eau, il faut la transporter. Quand on parle d'aller travailler, il faut se transporter. Quand on parle des loisirs, quand on parle... Vous avez des téléphériques qui vont dans les hôpitaux. qui transportent les gens depuis l'université jusqu'à l'hôpital, comme à Portland aux États-Unis. Ouais. Vous avez des applications en Inde, vous avez des téléphériques qui vont dans les temples pour aller prier, pour aller se ressourcer. Donc vous avez des applications, elles sont partout.
En tout cas, la ville est en train de se réinventer, ça c'est sûr. Et peut-être même qu'en Ile-de-France, on aura un téléphérique, en tout cas je crois, pour relier les banlieues du Val-de-Marne d'ici 2020-2021.
2020-2021, ouais. J'espère le
Parce
plus vite
possible.
Parce que
là aussi, on est quand même complètement saturé dans les banlieues françaises pour relier également d'ailleurs la capitale.
Tout le monde assis, attachez solidement vos ceintures. Attention, nous décollons.
Dis-moi où tu viens, où tu te réveilles.
M-A-R-S, ce n'est pas une farce. IAM live de la planète Marseille. Soleil devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance des rues quand vient le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont les génies du genre Léonard de Vinci. Et voici aujourd'hui juste un cliché de la ville du sud qui brûle à plus de 1000 degrés. Les ninjas qui sont joués comme au tic-tac-toe. Et pro et prennent la fuite en zigzag. Yo, la terre est paniquée, normal. Commandeur Akhenaton du vaisseau amiral de la flotte hygiénique de Marseille. Invincible l'armada ordonne d'une vive voix l'invasion immédiate de la France, putain. KM et Hype quand ils rentrent dans la danse,
subissez. Population dépasse, une attaque en règle venue
de la planète Marseille.
De la planète Marseille.
Je tente le beat avant de départ en l'harmonie. Symbole de vivant de ma véritable hégémonie. Je suis top notion qui me bloque en festant que les chocs et du temps. Tu le rock et me moque de votre époque. Isolé, éloigné, vous étiez un anoxy. Lorsqu'IAM a débarqué d'une autre galaxie. En flip ou en trip, piqué en chip. La venue d'IAM est une rencontre du troisième type. Comme à la télé, on est troublé. Mais les visiteurs regardent et disent V, c'est vrai, hein. Mais dans le ciel, vivant dans le soleil. Le vaisseau impérial n'aura jamais de la vie sans pareil. Ils sont équivalents, sans équivoque. La majuscule à la science. De monsieur Sport, le mic est monté, l'MK de branché, le 16 piste prêt afin de pouvoir enregistrer. En fait pour abréger, nous allons déclencher une énorme offensive de la cité de Fossé. Tout le monde crie, tout le monde trace devant l'attaque des poètes venus de la planète Marseille.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur, Xavier, vous êtes en France. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour Emmanuel. Donc j'appelle à propos d'une question de style architectural. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à chaque génération, les gens sont dégoûtés de ce que les architectes de la génération d'avant avaient fait, on trouve ça horrible, etc. Et que ça date de la nuit des temps, je pense aux cathédrales gothiques qui étaient décriées à la Renaissance. Ouais. Aujourd'hui, on déteste les immeubles des années 70.
C'est ça, comment
ont-ils pu faire
une horreur pareille, c'est ça.
Voilà,
c'est
voilà, on se dit, ils trouvaient ça beau, c'est vraiment possible ça. Et donc, je voudrais savoir si c'était un invariant universel, et si finalement, voilà, les choses n'allaient pas revenir à la mode après.
Réponse des architectes dans le studio.
Venant de Chine, je dois vous dire que l'époque moderne est peut-être vue de l'histoire à la fois une prouesse technique, mais à la fois particulièrement catastrophique par rapport aux villes, parce que nous avons nos ancêtres, enfin nos précédents pensent qu'il y a un idéal de ville parfait. Il y a un fantasme sur cet idéal universel, réplicable partout. Je pense que le temps nous a prouvé que c'était faux. Donc, vous adressez la question au style architectural. Je pense que là, il y a, dans le temps à venir, il faut plus de diversité, plus d'ouverture. Et c'est ça que nous devons faire. Il n'y a pas un seul modèle de ville qu'on doit répliquer partout dans le monde, dans le nord, dans le sud. Ce n'est pas possible. C'est vraiment en regardant à chacune des villes, à chacun des besoins, qu'on va inventer de nouvelles esthétiques, mais aussi de nouvelles façons de...
Ouais. Et pour vous, Jean-Robert Mazot, sur les générations d'architectes...
Le mouvement moderne avait adopté un slogan qui disait « L'ornement est un crime ». Et Dieu sait s'il y a des...
C'était un peu dictatorial. territoriale, hein, quand même.
Bah, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'il faut regarder la diversité aujourd'hui des styles, justement, la diversité des expressions culturelles qui s'appliquent aux bâtiments et au-delà des bâtiments à notre environnement. Regardez par exemple le street art. Le street art, eh bien, que remplace le street art ? C'est un style, le street art. Il y a des styles de street art fabuleux. Auparavant, il fallait une œuvre d'art dans les quartiers chics. Aujourd'hui, le street art est partout. Il est partout dans n'importe quelle ville du monde. C'est-à-dire que là, je crois que le style a explosé en réalité. Je pense que on est sorti de ce carcan, on est sorti de cette sorte de comment dire, de privilège réservé à quelques-uns. On a aujourd'hui la possibilité de laisser s'exprimer tout le monde, et donc tous les styles.
Même si en même temps, hein, tout de même, les inégalités sont croissantes dans les villes. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, et nous donnons la parole dans quelques instants à une jeune architecte à Abidjan, Mélissa Cacoutier.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
C'est pas mal, 7 milliards. Ça fait beaucoup, quand même. Le monde, oui, 7 milliards.
Mélissa Cacoutier, architecte à Abidjan, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez créé il y a 6 mois Jeannette Studio. Vous avez fait, vous avez bien sûr auparavant travaillé dans des agences d'architectes. Vous avez fait vos études d'architecture en France à l'ESA à Paris, l'école d'architecture, l'école spéciale d'architecture de Paris, comme bon nombre de vos collègues d'ailleurs, hein, puisque l'école d'architecture d'Abidjan a été toute récemment ouverte. Est-ce que déjà votre formation en France est adaptée à votre pratique d'architecte aujourd'hui dans une capitale africaine?
Eh ben non, parce que en fait déjà par rapport au climat, c'est pas le même. Par rapport aux ensoleillements, ce sont pas les mêmes. Donc comme je disais à des amis à Paris, quand je dessinais une maison à l'école, on cherchait plutôt le sud. Et c'est en venant à Abidjan que je me rends compte que ici, ben, on essaie plutôt de se cacher du soleil. Donc on va pas chercher le sud, on va essayer de se cacher et on va avoir des façades aveugles à l'est et à l'ouest. Et on va privilégier les façades nord. Voilà.
Vous avez reparamétré vos logiciels. Vous faites aujourd'hui partie d'une association de jeunes architectes ivoiriens. Puisque, alors on entendait un auditeur hein, juste avant vous, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, qui nous appelait de France. C'est qu'il disait, est-ce que finalement aujourd'hui, les architectes déconstruisent en permanence ce que leurs prédécesseurs ont construit en disant, mais comment ont-ils pu faire des horreurs pareilles ? Vous, en tant que jeune architecte africaine, quel est le regard de votre génération sur les villes africaines et ce qui a été fait ?
Les villes africaines aujourd'hui, j'ai un peu écouté tout ce que les auditeurs disaient auparavant. Et en fait, je voulais rebondir sur, je crois que c'est Daniel qui parlait de l'exode rural.
Oui.
Et en fait, on a le même souci à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a énormément de monde, plus de 20% de la population qui se retrouve à Abidjan, alors qu'on a presque quasiment la totalité du territoire qui est plus ou moins vide. Donc on a ce surpeuplement là qui crée des logements. Et en fait, pour pouvoir accéder à ces logements-là, on a les infrastructures qui viennent après. Donc aujourd'hui, Abidjan est une ville embouteillée. Donc par rapport à ce que Monsieur Mazo disait tout à l'heure, les téléphériques dont il parlait, à Abidjan, on a la possibilité en fait de pouvoir avoir ce téléphérique-là sous une autre forme, parce que sur les 10 communes de la ville d'Abidjan, on a 9 qui sont bordées par la lagune. Et pourtant, et on a l'essentiel de la circulation qui se passe sur les voies.
Malgré le troisième pont qui est lui-même engorgé.
Oui. Alors Mélissa, j'ai une petite idée. Je pense, par rapport au téléphérique, il y a aussi le vélo. J'ai vu que il y a un manque flagrant de transports en commun dans beaucoup de villes. Quand j'étais à Ouaga, il n'y avait quasiment pas de bus. Tout le monde circulait
en mobylette. Le vélo en Afrique, ça n'a pas une très bonne image. Hein, ça, je vous le dis tout de suite. On a fait des émissions là-dessus. C'est quand même, il y a un petit problème de statut social avec le vélo. Hein.
C'est ça. c'est la même chose en Chine. C'est qu'il y a 30 ans, tout le monde circulait à vélo. Et il y a 20 ans, tout le monde abandonnait les vélos parce qu'il y a que des pauvres qui circulaient en vélo. Et aujourd'hui, toute la classe moyenne à Shanghai, à Pékin, pour éviter l'embouteillage, garde leur voiture dans le garage et prennent le vélo, surtout un vélo en libre-service, sans borne, avec la nouvelle technologie numérique. On arrive à maîtriser ce transport en commun et à lui redonner une nouvelle image, plutôt d'être dans l'air du temps et d'être aussi durable.
Oui, je pense que juste avant le vélo, ce serait bien qu'il y ait des trottoirs, qu'il y ait des zones piétons sécurisées dans une ville comme Abidjan. Ça serait formidable si on pouvait déjà marcher d'un point à un autre, marcher du bus, parce que le bus ne peut pas s'arrêter partout, mais déjà venir de son travail ou venir de sa maison jusqu'au bus, ça serait déjà pas mal. Donc commençons peut-être par les trottoirs. Et ensuite, peut-être qu'ensuite, effectivement, on pourra développer quelque chose autour des bicyclettes.
Mélissa Cacoutier, vous souhaitez réagir. Après, je vais vous interroger sur vos clients.
Oui, je souhaiterais réagir, en fait, justement, par rapport au trottoir. Parce que c'est une très bonne liaison. Parce que j'appartiens également à une association qui s'appelle J'aime ma lagune. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer d'assainir les bords de lagune. Qui, pour le coup, des fois, à certains moments, sont... côte à côte avec les voies. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on a un moyen de réutiliser la ville autrement en réutilisant ces bords de lagune-là, comme je parlais des 10 communes qui étaient toutes bordées par la lagune. Maintenant, par rapport au vélo, au-delà même du caractère social de ça, faut pas oublier aussi qu'on est à Abidjan et que la température moyenne est de 28 à 30 degrés. Donc effectivement, ce serait bien, mais si c'était sous des allées plantées, il n'y aurait pas de problème. Mais après, quand le soleil tape directement, bon, on a ce souci aussi de transpiration et tout. Donc, voilà.
Mélissa, l'essentiel de vos clients, évidemment, qui sont relativement fortunés pour faire appel à un architecte, vous appellent pour dessiner une maison individuelle. Ça continue d'être le rêve universel, la maison individuelle, selon vous, dans des villes du Sud où l'étalement urbain est un problème?
Et oui, malheureusement... la plupart de nos clients, ce sont bon, pas forcément très fortunés, mais en tout cas, qui disposent de suffisamment de moyens pour pouvoir investir dans un projet de la sorte. Et en fait, le but aussi, c'est bien que je puisse parler, le but aussi, c'est de faire comprendre aux populations que les architectes ne sont pas réservés à une élite, mais qu'on est là pour les accompagner aussi au quotidien dans la ville. Donc, on a l'ordre des architectes, mais je ne sais pas si les Ivoiriens, en fait, ont conscience du fait que les architectes ont ce rôle d'accompagnateur là. On prend comme des dessinateurs.
C'est ça, je sais que vous faites des études dans des quartiers pour interroger les habitants et mieux comprendre quelle est la ville qu'ils souhaitent. Sur l'étalement urbain, Jean-Robert Mazot, inévitable, encore aujourd'hui dans les villes du Sud, ce fameux rêve de la maison individuelle.
Vous savez, nous on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une forme sans limite ? Aujourd'hui, la ville est une forme, mais sans limite. Et donc, il y a plusieurs réponses, et en particulier, il y a la réponse des limites faussées. Qu'est-ce que sont les limites faussées ? Ce sont les limites que nous impose le changement climatique, ce sont les limites que nous impose le changement de la biodiversité, ce sont les limites que nous impose finalement la nature à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes dans la nature, nous sommes faisons partie de la biodiversité.
Donc là, c'est la fin des formes sans limites pour les villes, selon vous, avec l'impératif du changement climatique ?
Oui, je crois que, surtout en Chine, avec le problème de la pollution de l'eau et de l'inondation, on prend réellement conscience de ces contraintes. Ce ne sont pas simplement des contraintes, ce sont des conditions réelles dans lesquelles on s'inscrit et que toutes nos vies s'inscrivent. Je crois que ça s'applique aussi bien à la Chine qu'à l'Afrique. Et par rapport à ce que Mélissa vient de dire, je crois qu'il y a un rôle aussi d'architecte de responsabilité sociale. Et c'est surtout ça que peut-être notre jeune génération d'architectes prend conscience, c'est que nous n'avons pas seulement le rôle d'accompagner, nous avons un rôle de médiateur. Nous sommes capables de faire une synthèse de la demande, de la soumettre aux autorités et de faire dans le sens inverse, de stimuler des micro-rénovations dans des quartiers à l'initiative individuelle. Et je crois que c'est très précieux.
Merci à vous tous. Ning Liu, architecte pour l'agence Building for Climate. Jean-Robert Mazot, architecte urbaniste pour l'agence S International. Il faut absolument découvrir votre livre Tram du ciel, cet atlas mondial des téléphériques et autres transports urbains à câble avec des photos tout à fait incroyables. Et merci à vous, Mélissa Cacoutier, architecte à Abidjan. Merci à toute l'équipe, Camille Néran, Hugo Violas, Thomas Delpech. Demain, 7 milliards de voisins, je vous propose de réécouter notre émission sur les relations mère-fille. Pas simple, complicité ou concurrence, solidarité ou jalousie. Quelles sont vos relations avec votre mère ou avec votre fille ? À demain !